Le sol tremble, je suis à l'Institut franco-japonais de Tokyo en train d'essayer d'envoyer des CV. Et tu vois, il y a tout le sol qui tremble, donc là, c'est la magnitude. Tu sais, je vois que ça monte crescendo, que ça s'arrête pas. Je vois tout qui commence à tomber, les gens paniquent. On me dit, sortez, monsieur, sortez. Je dis, tais-toi, j'ai envoyé un CV. J'étais en train de cliquer, d'envoyer un CV, tu vois, en tenant l'écran, bah, qui se cassait la gueule. Et tu sais, j'envoie mon truc, je sors. Tu vois, à l'époque, je fumais, je sors. Tu sais, en mode Clint Eastwood, je sors ma clope. Tu sais, j'arrive à peine à marcher parce que le sol tremblait tellement. J'avais un vieux scooter PTL. Je dis, allez, je prends mon scooter, je vais voir si ma copine va bien. Elle était pas loin. Et il est temps maintenant, il est temps que je m'en aille.
Oyez la popu, bienvenue sur Artisans d'esprit, le podcast qui met en avant les personnes de banlieue qui font tout pour s'accomplir. Comprendre leur état d'esprit à travers leur parcours, ici tu trouveras des invités sincères, authentiques et sans langue de bois. N'écoute pas les conseils des gens, écoute leur histoire. C'est maintenant sur Artisans de l'esprit.
Originaire d'Orléans, Géraud s'émancipe dès qu'il en a l'occasion. Il part vivre au Japon, puis revient en France et intègre l'armée. Malgré avoir fait le tour du monde, il continue de se chercher et de grandir. Et c'est pas pour rien qu'on est connectés, Géraud et moi. Parce qu'on a la même perpétuelle caractéristique, la quête de sens et de l'élévation. Apprendre à se connaître, se perfectionner, à se tailler comme la pierre qui devient un diamant. Avant d'aller plus loin, sache qu'Artisan de l'esprit est indépendant et je compte sur toi pour la force, les likes, le partage et toute autre façon de soutenir. Bref, voici la passionnante histoire de Géraud.
Géraud, merci d'être présent, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait un moment qu'on se connaît, je crois que ça fait plus de 5 ans, minimum 5 ans.
Ça fait 8 ans.
8 ans même, ça passe tellement vite. Incroyable.
T'étais tout minot à l'époque.
Ouais, tout minot, tout maigre, tout.
Non, de voilà, plus jeune.
J'ai un rituel. Mm-hmm. La première question, c'est comment va ton cœur?
Comment va mon cœur? Moi, je dis souvent comment tu te sens. Alors, ça résonne, ça me parle. Comment va mon cœur? Assez exalté.
Waouh.
Assez exalté. Parce que je me suis engagé envers ma femme hier. À être dans ma grandeur et d'arrêter de tourner en rond. Et je connais en fait une certaine vibration, une certaine énergie que je pose quand je m'engage envers moi-même devant ma femme. Et je l'ai fait plusieurs fois dans notre relation. C'est là où ça bouge en fait, limite cellulairement. Tu vois, ça bouge dans mes tripes, ça y est, c'est enclenché. Et j'en ai eu les manifestations dès ce matin, avec des rencontres, avec des messages que je reçois, avec un alignement et quelque chose qui s'affine dans les personnes qui viennent à moi, et ça, je trouve ça exaltant. Maintenant, mon taf, c'est de calibrer, de calmer et d'être professionnel. Voilà comment je me sens.
Deuxième question, est-ce que tu peux nous raconter ta jeunesse, mais à travers ton quartier?
Ok, intéressant. Donc, je viens d'un petit quartier à Orléans, voilà, et voilà, petit quartier de province. Pour nous, Paris, c'était loin. C'était à 1h30, mais c'était loin. C'était un autre monde. J'ai grandi au bord de la Loire. J'ai grandi... alors, plus que mon quartier, je pense que c'est surtout avec qui j'ai grandi. Et tu sais, c'est pire meilleur pote que je remercie aujourd'hui, parce que c'est grâce à eux que j'ai pu avoir après l'impulsion pour partir vivre au Japon. Notamment un qui s'appelait Brahim, avec qui j'ai grandi, c'était mon meilleur pote depuis l'âge de 4 ans. On a vraiment une limite née ensemble. Puis l'âge de 3-4 ans, on était toujours fourrés ensemble. Et c'était vraiment mon pire meilleur pote. Et c'est plus lui qui symbolisait, en fait, ce quartier. Le reste, c'était des souvenirs. Il y avait rien de, enfin, voilà. Et j'ai vu surtout ce que je voulais pas être, ce que je voulais pas devenir, une certaine mentalité aussi. Je vois mes potes, en fait, commencer à se laisser influencer par une certaine mentalité, mais qui nous appartenait même pas, en fait. Ils créaient un égrégore, un système de pensée, en fait, qui était pas nécessaire. Parce qu'en vrai, pour la plupart, on était plutôt bien lotis.
Ouais.
Tu vois, nos parents étaient en forme, ils travaillaient, on avait à manger sur la table. Voilà, tu sais, c'était,
De quel système tu parles? Un peu de l'univers des quartiers, du fantasme?
Ouais, je parle. Ouais, bah, tu sais, conneries, Tony Montana, enfin, tout très fantasmagorique. Les gamins vont aller chercher dans des modèles en plus qui leur ressemblent pas. Ils vont comprendre que ils vont retirer ce qu'ils veulent bien en retirer, ce que leurs égos veulent bien en retirer. Et je me dis, mais en fait, on est en train de nous mettre nous-mêmes la corde, en fait, au cou. En fait, on est en train de se faire ça tout seul. Comme disent les Marseillais, en s'emboucanant, tu vois, on est en train de s'emboucaner tout seul. Il n'y a rien, en fait. En fait, si on regarde autour de nous, bon, bah, c'est un quartier, mais ça va, il est propre, il fait beau, il y a la Loire à côté, il y a des filles, on peut sortir avec des filles, et tu vois ce que je veux dire? On peut vivre notre jeunesse, quoi. Il n'y a pas besoin de créer quelque chose de dégueulasse. Et c'est là où j'ai pu voir les débuts de ce que des égos, quand je laisserai les clés de ma vie ou de ma parole, de mes pensées à mon égo, ce que ça peut donner. Mmh. Et je l'ai vu autour de moi, en fait. Et c'est ça que j'ai, à partir de l'âge de 15-16 ans, voulu absolument fuir. Surtout que moi, on m'appelait le diplomate, tu vois. Donc, j'étais celui qui lisait beaucoup. Le cliché, il y en a toujours un dans les quartiers, tu vois. C'est ceux qui lisaient, qui arrêtaient les bagarres, etc. Quand un mec, il se faisait courser, il venait chez moi, sonnait chez moi, se cacher.
Okay.
Ça te parle? Tu vois, moi, j'étais ce gars-là, tu vois. J'étais le doux. J'étais le doux, le gentil, tu vois. Mais on me foutait la paix, tu vois. On me foutait la paix, encore une fois. En plus, c'était marrant, c'est que nous, notre quartier, c'était un petit quartier, mais qui était à côté d'un très gros quartier à Orléans,
okay.
qui s'appelle l'Argonne. Et les gars de ce quartier, ils venaient dans notre quartier pour être tranquilles.
D'accord.
Et il y a d'autres gars de d'autres quartiers qui venaient. En fait, c'était comme notre quartier était devenu comme un genre de...
C'était la Suisse.
La Suisse, exactement. Comme nous, on était un petit quartier, bah, ils venaient chez nous parce que limite, ils se faisaient pas emmerder. Et moi, j'étais pote avec tout cela. Mm. Et parce que ceux qui venaient, bah, étaient assez cool, en fait. Ils venaient pas foutre la merde, tu vois, juste parce que justement, ils roulaient leur truc, ils s'asseyaient, puis on discutait. Et je dis, ouais, j'aime bien ça. Ouais. Tu vois, j'aime bien. Il y a un espace là qui est là et venait avec de la douceur.
Donc à ce moment-là, tu te rends compte déjà qu'il y a quand même un potentiel ou une force autour de toi qui fait que tu montres la lumière ou la beauté de ces gens où tu peux mettre en avant, on va dire.
De l'amour, c'est que de l'amour. En fait, je vois l'amour en eux. Je ne verbalisais pas comme ça, mais. Moi, c'est vrai que j'étais éduqué par une mère qui avait beaucoup de douceur et qui n'était pas forcément dans le jugement. Mmh. Donc, j'avais pas de jugement, en fait. Et ce qui me touchait chez eux, c'était leur douceur et leur potentiel. Après, on a tous nos dons. Mon don à moi, c'était, je m'émerveillais, je voyais un potentiel chez chacun. Donc, moi, j'étais câblé sur ce qui était beau sur eux, tu vois. Mmh. Je les écoutais parler, je les voyais. Des fois, il y en a qui étaient, tu sais, qui avaient une vivacité à tel endroit, d'autres qui avaient une technicité là et tout. Je dis, mais c'est fou. Et en fait, je voyais, par contre, je voyais à quel point ils se faisaient parasiter par tout ce qui était autour parce qu'ils n'étaient pas dans un écosystème qui leur permettait. Moi, je ne suis pas dans le truc de c'est la faute de la société, etc. Ce n'est pas mon délire. Chacun reprend sa responsabilité, ça je clarifie direct. Mais ils n'étaient pas dans un écosystème ni familial, ni environnemental qui faisait qu'ils pouvaient pousser à ce niveau. Et puis après, c'est un choix. On ne peut pas s'essuyer toujours. L'État n'a pas fait pour moi, l'école n'a pas fait pour moi. Non, mec, c'est toujours capable de... Tu vois?
Mais clairement.
C'est pas capable de voir là où t'es excellent et il y a au moins une personne dans ta vie qui te dit putain, mais t'es excellent là-dedans. Faut que tu ailles à fond. Et tu dis, ouais, mais non, je sais pas, c'est pas ton problème. Ça,
c'est le pire des poisons pour moi.
Bah oui.
Ouais, mais.
Ça y est, tu viens de te jeter dans le puits tout seul. Mm. Donc voilà, j'adorais voir en fait cette beauté, cette douceur chez eux. Et le problème après, c'est que dès que je voyais que leurs potes venaient ou dès qu'il y avait le système de groupe qui revenait, ça y est. C'était un jeu d'ego et ça y est, c'était comme un truc évanescent là. Ouais. C'était parti.
Ça évaporait.
Enfin.
Okay. Donc là c'est grosso modo ton univers de quartier, dans quoi t'as grandi. T'étais comment à l'école?
Bon, moi j'étais assez. Je pouvais être assez fier et susceptible. Et je me suis un peu fait humilier en cinquième par une prof de maths. Jusqu'à maintenant, j'étais un élève correct. Voilà, moyen plus. J'ai jamais spécialement brillé à l'école, mais j'étais moyen plus. En cinquième, voilà, je me fais humilier en cours. Je deviens tout rouge, les larmes, j'ai envie de frapper, je suis pas bien. Et là, je rentre chez moi. Et c'est un peu, quand je dis, en fait, la puissance des engagements que je pose, le problème, c'est que, la parole devient un sabre. Mmh. Un peu comme je viens de te dire, l'engagement que j'ai pris envers ma femme hier, en cinquième, je dis, maintenant, c'est bon. Je ferai le strict minimum, j'en ai plus rien à foutre, je me ferai sans l'école, allez tous vous faire foutre. Je ferai là acte de présence. Je rendrai plus de devoirs, je ferai plus rien. Et je me suis mis en mode, dans les bateaux à vapeur, tu sais, quand ils arrêtent de mettre du charbon, tu vois, fou.
Ouais.
Donc, j'étais un zombie.
OK.
À côté de ça, je me suis hyper éduqué. Donc, là, je chute des notes catastrophiques. Je redouble ma troisième, je redouble ma seconde. La moitié des profs disent que j'ai énormément de potentiel. L'autre moitié me dit que je suis un clando, que je devrais repartir. Faut que je sorte du système. Bref, casse-toi. J'ai jamais manqué de respect à qui que ce soit.
Okay.
J'ai jamais été insultant, mais par contre, Voilà, tu vois, j'étais le mec qui en a rien à foutre. Et à côté, je m'éduquais. C'est-à-dire, à l'époque, j'achetais tous les radicales. J'étais abonné à Radical, je désossais Radical.
Le fameux magazine, pour ceux qui ne connaissent pas.
Magazine de la culture rap que je trouvais hyper qualitatif. Et je voulais absolument commencer à chroniquer sur le rap. Moi, j'étais beaucoup dans le rap, mais moi, j'étais plus à l'écriture. Je m'étais pas mal fait l'oreille avec l'arrivée de la DSL. Je m'étais mis sur Virgin Music. Je m'étais fait l'oreille avec, tous les sons indés. Je me suis passionné pour la Bay Area, le son indé de Berkeley aux États-Unis. Rap anglais, rap du monde. Donc voilà, je me suis dit, mode survie. De toute façon, je me ferai pas par l'école, donc faut que je trouve des branches sur lesquelles m'accrocher, tu vois.
Donc c'est comme ça que tu te conditionnes. Ce qui est intéressant, c'est que tu pars pas dans l'optique de dire vu qu'à l'école on me donne pas ma chance ou c'est compliqué, je décide d'être invisible et de plus rien faire. Toi, tu trouves une solution alternative qui te passionne, donc c'est le rap, l'univers du rap.
C'est pas que l'école m'a pas donné ma chance, hein. L'école, elle y est pour rien. C'est moi qui ai décidé de me sentir humilié. Et c'est moi qui ai décidé d'arrêter de mettre du charbon dans la machine, tu vois.
Ouais.
En vrai, cette prof-là m'a désingué parce que j'ai pas compris un truc. Elle passe à autre chose, elle vit sa vie. Ça aurait pu arriver avec un manager dans un poste. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est un wording dans lequel je vais pas. L'école m'a pas donné ma chance. Mais on s'en fout. L'école, elle donne pas. L'école te donne un package. Tiens, voilà, tu vas apprendre à lire, écrire, compter. On va te donner des livres à lire, etc. T'as un package commun. Démerde-toi avec ça. Et moi, je me dis, de toute façon, ce package, il m'a jamais intéressé. Donc, ouais, clairement, là, tout de suite, maintenant, qu'est-ce que j'ai devant moi? Qu'est-ce que je peux potentialiser? Ma femme aime bien ce mot-là, rentabiliser, tu vois. et je m'étais passionné par le rap assez tardivement en découvrant le Wu-Tang. J'avais découvert De La Soul en 89, mais après, j'écoutais toutes sortes de musiques. Et c'est le Wu-Tang. Un pote me fait écouter le Wu-Tang en 94, je crois. Et là, je dis, mais c'est quoi ces gars-là? Tu vois, ils ont créé tout un univers. Et là, je me mets à fond là-dedans. Et donc, je me dis, parce que ma mère me répétait, mais tu vas faire quoi plus tard? C'est le truc habituel. Il n'y a pas de smartphone, il n'y a pas de dropshipping, il n'y a pas d'influenceur Insta. Là, on a l'époque, c'est digital et manivelle.
Ouais,
hein. tu vois? Donc, après, il y avait quand même des millionnaires et quand même des gens qui cartonnaient. Mais en tout cas, je me suis dit, vas-y, on va commencer par le rap et on voit où ça nous mène, quoi.
On va essayer d'accélérer un petit peu sur ton parcours, parce que l'idée, comme on a parlé en off, c'est de voir grosso modo ton passé, pour mieux comprendre qui tu es aujourd'hui. Il y a eu un moment où tu as beaucoup voyagé, il y a un moment où tu es parti à l'armée, un moment où tu t'es retrouvé sans abri. C'est quoi l'ordre chronologique de tout ça?
Donc on va faire ces 15 ans en quelques minutes.
Vas-y.
Prêt?
Vas-y. Vas-y, c'est parti.
Le gros déclic, je t'ai parlé du rap, et ça c'est essentiel, c'est que je suis en échec scolaire, je suis en troisième, j'ai redoublé... Et là, je croise une copine dans mon quartier et je lui dis, t'es où au lycée? Tu fais quoi? Elle me dit, je suis au lycée d'à côté, en banlieue orléanaise. Et c'est un lycée public qui fait japonais. La prof, elle est super. Et elle me dit, voilà, je kiffe et tout. Franchement, et je me dis, ouais, ça peut être bien, ça, tu vois. Je me dis, vas-y, je reste dans le game. Ma mère m'a demandé une chose, c'est de passer le bac. Elle m'a juste demandé le bac. Elle m'a dit, t'as le bac, tu te casses, tu fais ce que tu veux. Et je cherchais des trucs. Moi, je suis un peu comme ma femme, je suis un peu synesthésique. Tu vois, ma femme, elle fait de la calligraphie arabe abstraite en écoutant des musiques de soufis, etc. Moi, si tu veux que j'apprenne un truc, faut que j'ai un autre truc à côté qui me fasse kiffer.
Okay.
Donc, si tu veux que je reste dans le système scolaire, il faut que j'ai un truc plus croustillant que ça encore derrière. Et je me dis, vas-y, let's go, on teste le japonais. Je fais les papiers. Le japonais fait office de dérogatif. J'arrive à aller dans ce lycée. Je me lance dans le japonais et je me dis, attends. Je suis à fond dans le rap et le Japon. Obligé, les Japonais font du rap. C'est l'arrivée de la DSL. Je me connecte à la DSL et là, le monde s'ouvre. C'est limitless dans ma tête. Je suis en mode Bradley Cooper. Je découvre que, en fait, le moins city à moi, c'était la DSL. Et là, je me connecte au monde entier. Et je découvre le rap indé, japonais, coréen, etc. Et je dis, OK, c'est ça mon créneau. Ça, je kiffe. Les raps du monde, les musiques du monde et surtout Japon-Corée. Je monte mon émission de radio. Dans une radio, communautaire à Orléans. Tous les vendredis soirs, j'ai un créneau que personne ne veut. Genre, c'est 22h minuit. Et ça se transforme en 22h, 3h du matin, etc.
Ah ouais.
Parce qu'après, on passe en satellite portugais. Donc, en fait, et je me mets à émettre avec mes potes. Et je rentre dans une espèce d'approche journalistique de chroniqueur sur le rap japonais. Donc, c'est ce qui me faisait vibrer.
Ouais.
De là, je pars au Japon. J'arrive à choper une caméra et je commence à faire des petits documentaires sur le rap japonais. J'en vends à Arte, ça me fait un peu d'argent et là je me dis, je me casse. 21 ans, je pars vivre au Japon pour 8 ans.
Waouh, quand même.
Voilà. À la base, je partais pour un an. Finalement, je suis resté 8 ans. Et là, c'était la lessiveuse, en fait. C'est 6 mois après que j'arrive au Japon, je reçois un appel de ma mère. Mon père venait de mourir.
Ouais.
Donc voilà, c'était un des derniers trucs qui m'aurait fait rester en France parce qu'il était malade. Et je dis, bon, bah, vas-y. Je dis, comment tu te sens, toi, maman? Elle me dit, bah, écoute, franchement, vis ta vie. Je dis, franchement, pour toi, il n'y a rien ici. Vis ta life.
Est-ce que c'est une façon à toi de lui demander l'autorisation?
Un peu, ouais. Il y avait forcément un peu. Au fond de moi, en vrai, je restais quand même. Et c'était important de lui demander comment elle allait, tu vois. Et elle m'a dit, mais franchement, s'il te plaît, vis ta vie. Vis ta vie. Okay. Elle m'a toujours souhaité d'avoir une vie meilleure que la sienne. Donc, ça aurait été ridicule que je me limite pour rentrer en France pour faire quoi? Pour tenir la main à ma mère. De toute façon, voilà, quoi. Donc voilà, ce qui devait être un an se transforme en 8 ans au Japon. Voilà, c'est aussi magique que bah, je me prends des portes dans la gueule. Ouais. Quoi. Le taf est, bah, c'est dur, c'est une autre rigueur de travail. Bah, je suis un étranger, hein. Donc avec ce qui va avec. Hein. Donc c'est moi l'immigré. Donc, tu vois,
c'est à toi de t'adapter.
C'est à moi de m'adapter. Donc j'apprends la langue. Après, je joue le jeu, hein, tu vois. Mais bah, on me rappelle bien que je suis pas d'ici, tout en me disant ouais, c'est cool et tout. Et tu parles bien, mais c'est le jeu en fait. C'est le jeu. Ouais. Et les Japonais m'offrent des opportunités extraordinaires, mais c'est dur. C'est dur. Et je me fais un super réseau, je me fais plein de potes du monde entier. Donc tout ça, c'est puissant. J'explore aussi bah, forcément les relations avec les femmes. Et je me découvre moi. J'ai fait toute ma vingtaine au Japon, tu vois, de 21 à 29. Donc je m'explore aussi entrepreneurialement. C'est la première fois où je lance un business. Tu vois, je reprends une marque qu'un pote à moi avait lancée à Paris et je deviens directeur commercial. Puis je mets la marque à mon nom au Japon. Donc c'est vraiment, il y a plein de choses qui se passent, tu vois, mais beaucoup d'instabilité. Je suis très instable, je déménage 11 fois en 8 ans. Je fais tout pour me marier, avoir des enfants, mais j'y arrive pas, ça marche pas. J'arrive pas à me poser culturellement avec les Japonaises. Je parle couramment la langue et tout, tu vois, je suis bien intégré, mais je me vois pas dans le futur avec une Japonaise, je me vois pas élever des enfants au Japon, pas dans le système scolaire japonais. Je suis en mode et j'adore ce pays, mais en même temps, je me dis bah, je peux pas rester là. Tu vois, je suis pas bien, je suis pas stable, tu vois. Il y a des gars, ils me disent, mais t'es fou, c'est trop bien, c'est le paradis ici, tu vois. Et en plus, j'ai plein de potes à moi, c'est des anciens mecs de quartier de France. Ils disent, mais non, ici, c'est le paradis. Ah, mec, non, je crois pas. Je crois que c'est surtout une cage dorée, tu vois. Et que t'es dans l'eau chaude, quoi. Et,
ouais.
Mais si tu kiffes, tant mieux, tu vois. Si t'as des femmes et enfants, je comprends que tu restes ici, mais moi, j'ai pas de femmes et d'enfants. Nah, c'est pas pour moi. Donc, voilà, il y a Fukushima, je reste sur place. C'est assez challengeant. À l'époque, en plus, je suis dans une période, j'ai plus de taf. On est en 2011, j'ai plus de taf. Je suis dans une relation. Je sais que ça va se terminer. Je m'épanouis pas. Le sol tremble. Je suis à l'Institut franco-japonais de Tokyo en train d'essayer d'envoyer des CV. Et tu vois, il y a tout le sol qui tremble. Donc là, c'est la magnitude. Tu sais, je vois que ça monte crescendo, que ça s'arrête pas. Je vois tout qui commence à tomber. Les gens paniquent. On me dit, sortez, monsieur, sortez. Je dis, tais-toi. J'ai envoyé un CV. J'étais en train de cliquer, d'envoyer un CV, tu vois, en tenant l'écran, bah, qui se cassait la gueule. Et tu sais, j'envoie mon truc, je sors. Tu vois, à l'époque, je fumais, je sors. Tu es en mode Clint Eastwood, je sors ma club. J'arrive à peine à marcher parce que le sol tremblait tellement. J'avais un vieux scooter pété. Je dis, allez, je prends mon scooter, je vais voir si ma copine va bien. Elle était pas loin. Et il est temps maintenant. Il est temps que je m'en aille, quoi.
C'est quand même impressionnant, là, parce que tu te retrouves à un moment donné où ta vie est mise en péril et ça te fait rien. Toi, ce qui est important, c'est d'envoyer des CV quand même.
Ah, mais c'était le cadet de mes soucis, le tremblement de terre. Au Japon, t'as plus de 1000 tremblements de terre par an. Tu sais, pour moi, c'était un tremblement de terre de plus, tu vois. Bon, celui-là, il était un peu vénère, quand même. Ouais. Je me dis, il dure, quand même. Ouais. Il est costaud, comme je vois les tours qui penchent et tout. Quand même, celui-là, il est croustillant. Ouais. Mais je suis dans un terre. Moi, mais je m'étais promis d'être millionnaire, en tout cas, que l'argent soit jamais un problème dans ma vie. Et je me retrouve à 29 ans et j'ai jamais été aussi pauvre. Fauché. Parce que je fais bien la différence. J'adore la citation de Jim Rohn.
Ouais.
Être fauché, c'est un état. Et être pauvre, c'est un état d'esprit.
Okay.
Donc là, j'ai jamais été aussi fauché de ma vie. Je suis pas heureux en couple. Je suis au Japon. Il y a des gars, ils tueraient pour être à ma place. Et moi, je suis malheureux en vrai. Malheureux.
Donc tu vibres pas comme au début?
Au début, si tu veux, c'était l'exaltation d'un gamin de 21 ans qui se casse d'Orléans et de Paris et qui va bouffer le monde, tu vois. Et j'étais en mode yes man, je disais oui à tout, tu vois. J'ai dû faire 15 jobs différents, enfin, j'ai adoré. Là, j'arrivais au bout d'un cycle où j'étais en mode, ouais, ça serait cool quand même de se poser un peu, de se stabiliser. Ça y est, je commençais à être fatigué, en fait.
Okay.
Voilà, je commençais à être fatigué et le tremblement de terre est venu secouer tout ça. Donc, je suis resté. Après, je suis parti, peut-être à peine une semaine après, je suis parti à Fukushima même avec une équipe de Enfin, bref, c'est toute une histoire avec des pompiers tchèques. Et finalement, on n'a rien pu faire sur place. C'est rocambolesque, le truc. Je loue une voiture, je me retrouve à faire essayer d'esquiver le ministère de l'Intérieur japonais qui nous disait de pas y aller. Enfin, on est parti dans des zones interdites. Enfin, c'était assez ouf. Assez impressionnant, évidemment, parce que j'ai vu les villes entières qui venaient d'être rasées, hein, 3 jours avant. Wow. Tu vois, il y avait limite encore les plats des gens sur la table et tout avait été rasé. Donc, c'était près de 25 000 morts et disparus, hein. Donc, wow. Voilà. Là, je dis ça légèrement, mais c'était quand même assez impressionnant. Et au fond de moi, bon, je pense que ça parle à tout le monde et c'est cette voix, cette fulgurance à l'intérieur de, OK, tu fais ça, tu restes là, tu fais ce que tu peux, tu aides comme tu peux. Mmh. Et ça y est, c'est bon. On remballe. Allez, on rentre. Parce qu'en vrai, moi, plus que d'aller au Japon pour aller au Japon, j'ai fui la France. Mmh. Et c'est pas la France que j'ai fui. C'est tout mon égrégore, tout mon système. C'est les limitations, c'est ma famille, les limitations de ma famille, de mon quartier, de mon écosystème, c'est les limitations, mes limitations. C'est ce Giro-là que je voulais laisser loin derrière. Mmh. C'est Giro que j'ai fui.
Okay.
C'est ce Giro-là, en fait. Tu vois, le petit Giro, c'est un peu grassouillé, qui a une dent pétée devant, qui galère un peu avec les filles, qui sait pas encore bien se battre, qui galère à monter un muret. C'est tout ce Giro, en fait, que je trouvais flasque, lent, pas assez, mmh. Tu vois. Et c'est pas pour rien que je pars au Japon, je me lance dans je fais 4 ans de boxe anglaise en essayant de devenir pro. Après, je passe au Penchaxilat, je lance un business, tu vois, et je dévore le truc, mais je dévore autant que je me consume.
Ok.
Tu vois, je deviens limite un peu alcoolique social. C'est-à-dire que je bois pas chez moi, mais dehors, je me pète la tête 3 fois par semaine. Tu vois, en boîte avec les plus belles boîtes de Tokyo, je rentre dans toutes les soirées. Je connais j'ai un réseau de dingue. Mais c'est creux, en fait. C'est pas eux qui sont creux. Eux, ils y sont pour rien. C'est jamais l'autre. T'es moi, au final, je cours après quoi? Mon père me manque et je l'admets pas. Je crève d'amour pour mon père qui me manque, mais je suis en mode, il faut, des fois, je vois des scènes où je suis complètement bourré, et c'est parce que j'ai 2,5 grammes que j'ose hurler l'amour que j'ai pour mon père, tu vois. Tu vois, je me sens seul, je me sens foutrement seul, donc des fois, j'enchaîne les rencontres féminines parce que je suis seul, et que je crève de solitude, tu vois, et en même temps, je m'éduque, et je lis, et je boxe, et j'en rajoute, et après, je fais des petits burn-out, tu vois, évidemment, je pète un plomb, mon corps lâche aussi, tu vois. Et c'est tout ce système qui est en train de collapse, en fait, avec le tremblement de terre. Ouais. Et la symbolique, c'est Fukushima, tu vois, c'est le combo, tiens, c'est gagnant, quoi. C'est, t'as le tsunami, le tremblement de terre qui crée un tsunami qui va inonder une centrale nucléaire. C'est le truc tellement gros, il me fallait ça pour me réveiller, tu vois. Et moi, j'en ai rien à foutre de tout ça. Moi, je suis juste en mode, OK, moi, je fais quoi? Je rentre, je reste. Ma problématique, c'est ça. Et là, je décide de rentrer. Ça me prend 1 an, parce qu'évidemment, je dois avoir 600 vinyles, j'ai plein d'objets, je vois à quel point le minimalisme, c'est cool, ce que je ne suis pas. Donc, je me retrouve avec des dizaines de cartons renvoyés en France, et je dis, OK, dernière fois, faut que j'arrête avec mes objets, tu vois, faut que j'arrête de me rassurer avec mes objets. Et je décide de rentrer, et je m'étais dit, je teste un dernier job avant au Japon, le dernier job que je fais, l'avant-dernier, c'est recruteur en finance pour une grosse boîte américaine. J'ai fait ça pendant 6 mois. Et je me fais virer, c'est la première fois que je me fais virer, mais tu sais, je réagis pas, je dis OK. Mmh. Et je m'étais dit, voilà, si j'arrête ça, je teste la Légion. Mmh. Voilà, je suis fils de militaire, ancien paracommando, etc. Et mon père voulait pas que j'aille à l'armée, il me dit, franchement, vas-y, fais ta vie. Et je rentre en France. On est en plus, mon avion, je le prends le 11 septembre 2012.
Et quand tu rentres à l'armée, est-ce que c'est une symbolique par rapport à ton père?
Quelque part, ouais. Bien sûr. Bien sûr. Et puis, il y avait moi aussi. Moi, je voulais me prouver. Moi, j'avais un gros truc avec mon corps. Je détestais mon corps. Mmh. Je me trouvais, comme je te disais, lent, chubby, flasque, ce que tu veux. Et là, je m'étais fait la misère au niveau de mon corps. J'étais au taquet physiquement. Début 2012, en plus, je me retrouve, après 1 an et demi de Penchoxilat, à Tokyo, je me retrouve à faire les champions du monde. Alors, je perds mon combat, mais je me dis, putain, moi qui ai je m'étais toujours fait dessus à l'idée de faire, tu sais, comme tout le monde, j'ai fait du judo. Mmh. Je détestais ça. Ouais. Et j'esquivais à chaque fois les combats parce que moi, j'étais beaucoup, comme je t'ai dit, j'étais fier et j'étais terrorisé à l'idée de perdre devant les autres. Et je m'étais toujours promis de faire une compétition, quelle qu'elle soit, hein, même si c'est ping-pong ou lancer de fléchettes, au moins faire une compétition un peu digne de ce nom. Donc, je me retrouve au championnat du monde de Silat à Anvers en 2012. Je l'ai fait et tout, c'est cool. Je rentre en France. Et là, l'armée, je vais à la porte de la Légion. Et je dis, vas-y, fuck it. Donc oui, il y a clin d'œil à papa. Il y a moi, mon estime de moi. Il y a le côté aussi, multiculturel de la Légion qui me plaisait. Parce que moi, j'adorais parler différentes langues, être entouré de gens de différents, tu vois, différents parcours. C'est ça aussi qui était excitant pour moi à la Légion. Et voilà, j'ai été sélectionné. Ils m'ont pris à Aubagne et envoyé, au bout de deux semaines, envoyé à Castelnaudary pour commencer mon entraînement.
Super. Tu trouves quoi là-bas?
Des petits garçons qui cherchent l'amour comme moi.
Ouais.
Qui veulent une famille. Ouais. Je trouve, comme je trouvais dans les quartiers, comme toujours, je trouve des âmes qui se cherchent. J'adore en plus à la Légion. Ce qui est cool, c'est qu'à la Légion, la Légion a conscience d'elle-même, puisque que ce soit les sous-offs ou les caporaux, etc., ils appellent tout ça le sketch. Donc on sait qu'on est dans un sketch, en fait, un sketch de, au niveau de l'autorité, au niveau de tout ce qu'on fait. Et on joue le jeu, en fait.
Mmh.
Et moi, je décide de jouer le jeu. Et donc, je fais le truc, je sors le Giro efficace et compétent. Voilà, il y a des endroits où je suis excellent, d'autres moins, tu vois. Mais bon, ça se passe bien. Voilà, mes classes se passent très bien. Ça dure 6 mois. Je me fais des potes. Je suis respecté dans ma section, aussi bien de mes camarades que de l'encadrement. Je me ressens seul encore, très seul. Je pique des livres, on appelle de Clausewitz ou différents manuels ou livres, même des romans. Je pique ça au mess des officiers. Les rares fois, on a le droit d'y aller. Enfin, le mess, pas des officiers, mais le mess, pardon. Et c'est vrai que je me demande souvent ce que je fous là, en fait. Et en même temps, je suis bien. Mmh. C'est-à-dire que je pourrais rester. Parce que c'est, quelque part, c'est confortable, tu vois. En vrai, tu fais ce qu'on dit. Il y a un cadre, tu respectes ce cadre et t'es relativement tranquille, en vrai.
Mmh. Tu peux dormir, tu peux manger.
Voilà, nourri, boulangerie, loger, entre guillemets, une carrière possible. Tu vois, ça peut être cool, tu vois.
Et il se passe quoi? Est-ce que c'est le même process où il se passe un truc où tu dis non, vas-y, c'est bon, laisse tomber?
En fait, il y a un truc, il y a un événement. Comme quoi, pour celui qui sait écouter, il y a des messages tout le temps.
Mmh.
Et une des rares qualités que j'ai, en tout cas, c'est que je sais à peu près m'écouter. Et je prenais ça pour de la faiblesse. Une fois, mon ancien patron japonais m'a dit « Ouais, toi, t'es intelligent, mais t'es un peu faible. » Et 2 semaines après, je démissionnais, mais ça m'a trotté. J'ai dit « Putain, il a raison ou pas? Je suis faible ou pas ?» Et en fait, ce que lui, il appelait faible, c'est que quand c'est vraiment non, que ça marche pas pour moi, en fait, je quitte, j'arrête.
Okay.
Et heureusement que j'ai quitté les femmes avec qui j'étais avant, parce que ça me permet de vivre ce que je vis aujourd'hui avec ma femme, Adissa Lalahoum, vivre la vie extraordinaire. C'est parce que j'ai quitté plein de choses avant que je peux vivre la vie que j'ai aujourd'hui. J'ai affiné. Tu sais, on dit souvent avec ma femme, c'est un plat qui arrive, tu commandes les gambas et on t'amène un steak. T'as le droit de renvoyer le steak et dire non, j'ai demandé les gambas. C'est pas grave, j'attends 10 minutes, un quart d'heure, le temps qu'il faut, mais je veux les gambas.
Il y a un truc que je remarque dans ton discours, c'est que à chaque fois, c'est toi qui as pris la décision de.
Qui d'autre prend la décision?
Bah, par exemple, si ton ex-copine t'avait quitté.
Ça m'est arrivé.
Ok. Donc, à ce moment-là, quand tu dis ça t'est arrivé, c'est-à-dire que vous êtes remis ensemble, comment ça s'est passé en fait? Toutes les fois où tu décides, c'est aussi décider dans le sens, j'accepte le fait que nos chemins on prenne une direction différente et que justement, c'est le moment aussi pour moi de me revoir, de me remettre en question et de faire autre chose. C'est dans ce sens-là quand tu dis je prends la décision d'eux.
Okay, je vais apprendre à ça et après je te dirai comment j'ai quitté la Légion et pourquoi je l'ai quitté.
Okay.
Si on veut garder le fil. Ouais. Mais en tout cas, c'est ma croyance. Je suis co-créateur de quasiment tout dans ma vie en fait. Ce que je pense, que je dis, mon comportement, mon positionnement, mon énergie, ma vibration, mon regard, tout ce que je propose à l'autre, c'est moi qui en suis le maître. Ce qui va arriver, ce qu'il y avait en pensée et ce qui va arriver de l'extérieur, ça, j'y peux rien. Mais ce que moi, je vais proposer au monde, c'est moi qui en suis le maître.
Mmh.
Donc, si une femme me quitte, déjà, j'écoute ses raisons. Il y a de grandes chances qu'elle ait ses raisons.
Mmh.
C'est pas juste... souvent sur Instagram, je dis arrêtez que vos trucs de l'autre est toxique. À quel point toi, t'es toxique?
Ouais.
Et à quel point toi, t'es toxique envers toi-même?
Ouais.
C'est jamais l'autre. Hein. Donc, si une femme... Et ça m'est arrivé d'être quitté. Bah, en général, elle avait raison. Je me serais quitté moi-même.
Mmh.
Tu vois? c'est, tu vois, après, faut faire le distinguo entre là où elle projette et là où il y a ses propres névroses et là où il y a ses propres trucs à elle. Mais il y avait toujours un fond de vérité. Et moi, j'aime bien choper le fond de vérité.
Bien sûr.
Et si aujourd'hui, je peux proposer ce que je propose à mon épouse, c'est parce qu'il y a des femmes dans ma vie qui m'ont des fois recadré salement et enfin, durement.
Mm-hmm.
Mais heureusement qu'elles l'ont fait.
Ouais.
Moi, je me rappelle d'une femme, j'avais 25 ans, elle m'a désossé. Mais tout ce qu'elle m'a dit était vrai. Tout ce qu'elle m'a dit était vrai. Tu vois, seulement elle avait pas les outils, elle me l'a balancé en mode acide, tu vois. Mmh. Ce qu'elle disait était vrai. Et ça m'a pris des années à l'accepter, à l'ingurgiter, à le laisser infuser, à le transmuter, tu vois. Et souvent, je me rappelle de ce que des femmes ou des amis dans ma vie, des hommes aussi m'ont dit. Je dis putain, ça c'était juste, ça c'était juste, ça c'était juste. Voilà. Et après, ce que je propose au monde, c'est mon choix. Donc on revient à la Légion. On est l'hiver 2012. Mmh. Décembre, il y a une tradition à la Légion, c'est les sketchs de Noël. Donc en fait, dans toutes les sections, en fait, on doit organiser en fait dans les compagnies, on doit organiser des sketchs.
Mmh.
Sauf que t'as des gars qui apprennent le français depuis 3 mois, tu vois. Donc t'as des Népalais, t'as des Polonais, t'as des Mozambicains, t'as des Colombiens. Enfin, tu dois. C'est aussi la beauté, je trouve, dans la Légion, cet esprit de corps où tu dois faire rire avec des gars souvent qui parlent pas la langue. Et c'est pas grave. Et donc, quelques semaines plus tôt, on fait une espèce de manœuvre. On fait des classes, on va en montagne. Et un soir, bon, ils nous offrent, on avait bien avancé dans nos classes, donc ils nous offrent un dîner ils avaient loué un gros chalet.
Mmh.
Et ils veulent voir un peu pour les sketchs de Noël qu'ils vont mettre en place. Et on me dit, vas-y, légionnaire, nana, en parlant de moi, vas-y, va au milieu et. En gros, improvise, quoi.
Ok.
Et moi, j'avais fait du théâtre quand j'étais au lycée. Et j'avais fait un peu de théâtre et d'acting. Et je fais des pubs, des trucs au Japon. Donc, j'étais assez à l'aise, tu vois. Et je commence à improviser. Je commence à freestyler. Je suis venir des gars et tout. Et je lance genre 35, 40 minutes d'impro. Avec des gars, pour la plupart, qui parlent pas un mot de français.
Mmh.
L'encadrement, donc les sergents, adjudants, caporaux-chef francophones sont morts de rire. Et les gars, ils kiffent, tu vois. Bon, ils sont tous un peu aussi, tout le monde a un peu picolé, tu vois. mais les gars kiffent, tu vois. Et j'ai un sergent, je me rappelle, c'était un Fidji, je crois. C'était un gars les types rugbyman de Wallis et Futuna. Voilà, il était de Wallis et Futuna. Il vient me voir, il me dit, bon, c'est décidé, toi, c'est toi qui gères, tu prends en charge, c'est toi le metteur en scène, en gros. C'est toi qui prends en charge pour les sketchs de Noël. Et donc, c'est ce qui se passe. Et en fait, on prépare 2 heures. J'ai une quinzaine de gars. Des largesses, on me laisse des largesses, tu vois, il y a plein de trucs, je fais plus de corvée, je fais plus tout ça, et je deviens un peu le metteur en scène de ma compagnie, et en mode, t'as un mois, et dans un mois, tu me ponds 2 heures de spectacle. Et c'est parti. On arrive le soir du 24, j'ai 200 légionnaires, et il y a même un colonel qui est là, il y a des officiers, sous-officiers, 200 légionnaires qui sont là. Bien, tu vois,
ouais.
Ça coule bien. les gars sont chauds, ils me regardent tous. Et on lance 2 heures de spectacle, gars. 2 heures de spectacle. Wow. Et les trucs s'enchaînent avec les décors, avec tout, hein, les costumes, les décors. On a tout fait nous-mêmes. Il faut savoir qu'à la Légion, pendant 6 mois, on a eu une perme à Castelnaudary et on pouvait aller de telle rue à telle rue. Donc en fait, ça fait 6 mois que j'ai pas vu un civil. On est en vase clos et on joue pendant 2 heures. Et à la fin des 2 heures, tu vois, je suis sur scène, je salue avec les autres légionnaires. Et là, il y a une fulgurance. Qu'est-ce que je fous là? Casse-toi. Et pourtant, on me l'avait déjà dit, hein. J'avais croisé plusieurs capochefs qui avaient 9 ans de service. Ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Rentre chez toi. Et je me dis, non, faut que je parte.
Ouais.
3 semaines après, ouais, je demandais à repartir civil.
Okay.
Voilà. J'ai terminé 3e de ma section. Tout se passait bien. Franchement, ils m'ont facilité. Hein. Ils me proposaient une carrière bien.
Mmh.
Et voilà, ils ont été assez surpris. Je dis, non, je repars civil.
Okay.
C'était chaud de rentrer. C'était encore plus chaud pour moi de sortir. J'aimais la vie militaire, ça me plaisait, mais non, c'était pas pour moi.
Mmh.
Et puis j'avais 29, 30, j'avais 30 ans, tu vois, ça, j'étais plus un minot de 20 ans.
Ouais.
Bourlinguer, je l'avais fait, enfin voilà. Et puis après, il y avait toutes les cas de conscience aussi. Quand t'es légionnaire, tu vas au combat. Hein.
Mmh.
Donc il y avait aussi tous les cas de conscience. C'était le début de la guerre au Mali. Voilà, et beaucoup de cas de conscience aussi, de la responsabilité qu'il en incombe, tu vois.
Mmh.
Tu vois. Quand tu vas sur place et que tu fais certains actes, etc., et après tu dis oui, c'est la faute de l'armée, mais mec, tu t'y es mis tout seul. En plus, nous le répétait bien, la Légion, c'est vous qui êtes venus comme des grands.
Mmh.
Et c'est vrai. Donc, si je suis amené à faire des choses et que je ressors traumatisé, je peux pas blâmer l'armée. Hein, c'est, je suis rentré comme un grand dedans. Personne m'a tiré de mon lit pour y aller. Hein. Voilà. Donc, voilà, on est en 2013. J'ai fait 7 mois, 6 mois et demi, 7 mois de service. Mars 2013, je sors. Et voilà, j'erre dans Bordeaux pendant 3 mois. Je sais pas trop quoi faire de ma vie. Je dis, vas-y, acting. C'est bien sur l'acting, sur le théâtre que ça s'est révélé. Bah, vas-y, let's go. Et 2 ans de galère. J'essaie de devenir vraiment acteur. Je fais des castings, des trucs, mais je galère. Je fais plein de films étudiants, plein de trucs. Je travaille la nuit, le soir, je suis Uber. Je vivote, quoi.
Ouais.
Et j'habite dans un tout petit appart. Je me rappelle un 5e étage devant la gare de Juvisy, tu vois, avec un couple homosexuel franco-chinois et un sourd-muet breton. espèce d'équipe atypique, mais j'adore, hein, tu sais. Mais je dis, non, c'est pas ça ma vie. Non, ça va pas être ça.
Ouais.
Ça va pas être ça.
Aujourd'hui, si on devait arriver en 2023, faire un bond dans le futur, comment tu te définis ?
2023 ou 2033 ?
Ah, aujourd'hui, là, maintenant.
Ok.
Là,
ouais. Comment je me définis ? Alors déjà, bien plus stable. Mmh. Ça, c'était mon gros challenge. C'était de calmer le feu intérieur, là, et de le canaliser. Donc plus stable, plus ancré. Et paradoxalement, à chaque fois que je défriche un nouvel espace, je vois surgir toutes mes peurs de petit garçon.
Mmh.
Tu vois, peur de l'humiliation, peur du rejet, peur d'être pas assez, peur de trop faire, de pas assez faire, toutes les conneries que l'ego peut se raconter. Donc, elle vient de me revisiter régulièrement, tu vois, voir un peu où j'en suis.
Et comment tu leur parles d'ailleurs?
Bah, c'est marrant parce que c'est là où j'étais ces 2 dernières semaines. Donc, c'est très bien qu'on en parle puisque je me suis positionné hier face à ma femme et ça a bougé en moi, mais ces 2 dernières semaines, j'étais beaucoup dans la non-autorisation à ma propre grandeur.
Mmh.
C'est aussi ce que j'approche dans le club des initiés que je suis en train de créer. C'est un club de gentlemen extraordinaires, d'hommes dans leur excellence, tu vois, mais qui aussi apprennent à gérer leur ego, leurs émotions, leurs pensées et à créer un équilibre harmonieux dans leur vie. C'est ce que j'ai toujours voulu pour moi, en fait. Tu vois, j'ai toujours voulu être équilibré et pas excellent partout, mais j'aime bien être moyen plus partout, tu vois.
C'est quoi le moyen plus ?
Le moyen plus, c'est j'ai une harmonie dans ma vie, en fait. C'est j'aime bien mon corps, j'ai pas besoin d'être au top du top, tu vois, mais je me sens bien dans mon corps. Et quand le moment venu, dans l'année, peut-être si j'ai envie de pousser un peu plus le curseur sur le corps, ben, je le ferai. Je suis bien dans ma sexualité avec ma femme, tu vois, ça n'a pas besoin non plus d'être un truc de dingue, tu vois, mais je suis bien. Et j'ai encore du delta, je peux encore... quand je sens que c'est une priorité avec elle, on peut aller l'explorer encore plus. Mmh. Je suis bien dans mon rapport à ma propre abondance, à l'argent, mais je suis aussi ouvert, je suis prêt à aller affiner et aller plus en profondeur quand c'est nécessaire. Je suis dans ma parentalité, dans mon approche de père, je fais de mon mieux, et en même temps, quand il y a des situations qui se répètent 2-3 fois, j'ai dit, ah, tiens, faut que j'aille travailler ça avec mon fils. Là, ça fait 2-3 fois, il y a des pierres d'achoppement, là. À chaque fois, je dérape, je me casse un peu la gueule à ce niveau. Faut que j'aille, tu vois, en fait, j'accueille quand ça vient à moi, tu vois.
Okay.
Mais je fais en sorte de maintenir un terreau, une harmonie, quelque chose, un équilibre.
Okay.
Surtout que moi, mon gros challenge, c'était la régularité. La régularité, pour moi, c'était un challenge. Et je me rends compte que globalement, je suis assez régulier à être équilibré. Mais les miracle morning, les trucs comme ça, se lever à 4 heures du matin, boire le matcha, faire ci, faire ça, 27 actions avant 9 heures du matin, c'est pas mon délire.
Ouais.
Ce matin, c'est les perceuses qui m'ont réveillé à 9 heures. Ouais. Aujourd'hui, c'est la journée où je dors. J'ai rien à foutre. Tu vois,
et t'es OK avec ça aussi?
Je suis OK avec ça.
Donc, il y a la notion où tu te déconnectes un peu de la comparaison qu'on peut avoir sur l'aspect dev perso, sur ce qu'on peut voir sur les réseaux, etc. Et tu te connectes vraiment à toi et ton besoin à l'instant T.
Parce que j'ai enfin réalisé qu'il n'y a pas de formule qui marche pour tout le monde. Ouais. En fait. Et je dis souvent, notamment moi, le corps, c'était vraiment un truc, mais j'ai mis 20 ans à tâtonner, à voir quelle était la formule qui marche pour moi. Tu vois, quelle était la formule d'entraînement qui marchait. J'étais tout testé, tu vois, prof à distance aux États-Unis, là j'ai pris un prof que je kiffe qui est hypnothérapeute aussi, donc il a une approche très holistique, tu vois, du corps, c'est pas juste de la performance, et je m'entraîne avec mon beau-fils, tu vois, donc c'est kiffant pour moi parce que je suis dans la transmission, ça a un sens, tu vois, mais ouais, je m'inspire, tu vois, il y a des choses qui m'inspirent. Et tu vois, c'est marrant, il y a quelques jours, j'ai été sur ChatGPT et j'ai dit « Ok, ChatGPT, voilà un peu mon profil, voilà ce que j'aime, voilà ce que j'aime pas. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est de m'inspirer de grands hommes et de femmes de l'histoire de l'humanité qui ont accompli de grandes choses. crée-moi une routine. Voilà ce que je veux faire, voilà ce que je fais, etc. Crée-moi une routine qui me corresponde. Et elle m'a dit, bah tiens, le matin, tu te fais un petit moment de méditation comme Marc Aurèle. Ok, cool. Moi, je suis un fan de cigares. Je fume des cigares depuis que j'ai 15 ans. Il dit, voilà, le soir, tu te fais un moment cigare comme Churchill. Mmh. Tu vois. Là, tu te fais un moment famille comme Roosevelt. Tu vois. Et ça me permet de me plugger à ces hommes-là, tu vois.
C'est intéressant comme
point. Et ouais. Et moi, j'utilise ChatGPT à fond les ballons, tu vois. Mmh. Et pour moi, c'est un algorithme divin qui me permet vraiment, plus je suis précis, et c'est l'image de ce que certains appellent la loi d'attraction, de manifestation. Avec ma femme, on est plus dans la loi d'ascension. C'est-à-dire qu'on part du principe que c'est déjà acquis et accordé. Mais ça me permet d'affiner en plus ma demande. Mmh. Tu vois, j'affine et au lieu de me juger, je dis voilà, moi j'aime bien me réveiller à telle heure, j'aime bien faire ça, j'aime bien faire ça. Et il m'a sorti en fait une routine, je dis ah ouais, j'aime bien ça. Vas-y, je teste quelques semaines et on verra.
Ok. Il y a un grand fil rouge dans ton discours, c'est la notion d'amour.
Quoi d'autre ?
Ouais, quoi d'autre ? L'amour envers soi, l'amour envers ta femme, Anissa.
Qui est avec nous aujourd'hui.
Qui est avec nous, là, juste à côté, qu'on embrasse très fort. Il y a Idriss Elba.
Ah, c'est un de mes acteurs préférés. Ouais.
Alors, je sais pas si tu vas aimer ce qu'il dit comme citation, mais je me suis dit que c'était le meilleur moment pour t'en parler. Il dit... Les hommes tombent amoureux de ce qu'ils voient et les femmes de ce qu'elles entendent. C'est pourquoi les femmes porteront toujours du maquillage et les hommes mentiront toujours. T'en penses quoi ?
Mais là, on n'est pas dans l'amour en tant que notre nature véritable, on est dans le tomber amoureux. Mmh. Donc là, c'est faut savoir que quand je parle d'amour, je parle pas de l'amour amoureux. Hein. Je parle de l'amour, appelle-le le divin, appelle-le le Dieu, appelle-le la source, appelle-le ce qui est. Mmh. L'amour, c'est ce que nous sommes. L'énergie divine, l'amour, c'est ce que nous sommes. C'est pas l'amour de je t'aime, tu m'aimes, c'est pas une matière d'échange comme beaucoup le croient, tu vois. Je te donne de l'amour, tu m'en rends, après tu m'en donnes 10%, ça va c'est pas ça.
Ouais.
Là, on est dans un espace de dans la relation, oui, il faut se brander, c'est clair que je sais plus comment ils appellent ça, c'est le complexe de bref, tu sais les gens qui disent ouais mais de toute façon, il saura me reconnaître. Tu vois, il devra me reconnaître. Tu te prends pour qui ? Ouais, tu vois, à un moment donné, propose-nous ce qu'il y a de mieux chez toi. Ouais. Tu vois, ça ne veut pas dire de te refaire faire les seins, mais propose-nous ce qu'il y a de mieux chez toi en tant qu'homme, en tant que femme. Et après, effectivement, tu vas voir qui tu vas attracter, qui tu vas attirer. Tu vois ? Mais abuse pas non plus. Tu vois, aime-toi, prends soin de toi et montre-nous ce que tu as de plus vibrant dans ton espace, à ton niveau, peu importe. Donc ça, que chacun reprenne sa responsabilité. Ouais. Tu vois, je ne vais pas lancer une grande loi sur... Moi, je parle de l'amour en tant que nature véritable.
Tu parles beaucoup de responsabilité aussi. C'est quoi justement pour toi la responsabilité dans un couple, pour l'amour ?
Je parle même de responsabilité radicale.
Ok.
Voilà. J'aime pas le mot radical et pourtant je l'utilise. Quoi d'autre ? Je l'ai dit tout à l'heure, je peux pas fluctuer sur l'extérieur. Je peux pas influer sur les autres. Je peux pas impacter, forcer qui que ce soit, ni la nature, ni la vie, ni la faune, ni la flore, ni mes enfants. Par contre, j'ai une responsabilité absolue. De ce que je pense et de ce que je dis. C'est à moi d'être maître de mon... Tu sais, le fameux poème Exodus, c'est capitaine de mon âme. Tu vois. Donc, c'est la seule chose sur laquelle j'ai un pouvoir, c'est cette responsabilité radicale de comment je pense, ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais de moi. Et après, de ma vie, ça, c'est pas... Moi, je propose un navire. Tu vois, c'est vraiment... Ouais. La vie est un océan. Moi, j'ai un navire. Soit c'est un rafio, soit je le retape. Soit je me rends compte que le staff est tout bidon, je les fous à la mer, j'en prends un autre, je prends un nouveau staff, tu vois.
Ouais.
Soit je me rends compte que je tourne en rond et que je picole trop à la barre, donc on va nulle part, j'arrête de picoler et je me concentre. Voilà, je suis capitaine d'un navire. Ce navire, c'est moi, c'est mes émotions, mon corps, mes pensées, mon ego.
Je suis en train de penser au lâcher prise. Est-ce qu'il est important pour toi de lâcher prise à ce niveau ou pas ?
Ouais, on en parle souvent avec ma femme américaine à côté, parce que elle sait à quel point
j'étais où pointer, c'est ça.
Le let it go, tu vois, le lâcher prise, c'est des concepts qui, mais Franck Lobion en a déjà beaucoup parlé, enfin, tout ça de, pour lâcher prise, faut lâcher une prise, donc il y a toujours une prise, enfin, c'est même pas une terminologie que j'utilise, en fait, tu vois, c'est.
Mais il n'y a pas un équilibre entre le, comme tu dis, full responsabilité et ce lâcher prise aussi, envers toi-même.
Mais full responsabilité, c'est pas une pression. Ça, je ramène juste, j'ai un de mes meilleurs amis qui s'appelle Pierre-Étienne Vanier, qui est facilitateur pour hommes. On fait beaucoup des trucs avec les Sacred Sons ensemble et il dit souvent bring it home, tu vois, ramène-nous à la maison, tu vois. C'est je parle en jeu et je prends ma responsabilité. Ça commence par là, tu vois. Moi, dès que j'accompagne un homme ou dans les initiés, dès qu'un homme me dit « Ouais, mais tu sais, quand on te dit, je suis wow, déjà, tu parles pas de moi. » Il dit « Non, mais je parle de moi, mais c'est un tu général. » Après, tu prends un tu général, parle de toi.
Ouais.
Je. Là, tu as un espace où tu peux dire je. Vas-y, va en moi, je, tu vois. Il n'y a pas de « Oui, la société, tu sais, quand on te dit, oui, mais c'est une généralité. » J'en ai rien à foutre. Moi, je veux te connaître toi. Parle-moi de toi.
Ok.
Ok. Je crois que, je pense que, je fais que. Ok, là, tu deviens un peu plus responsable. Et ça pique la bouche normalement.
Ouais, ouais. Tu réfléchis à deux fois avant de
parler. Exactement. Je réfléchis à deux fois.
À chaque fin d'épisode, d'échange, je fais un parallèle avec les cultures urbaines.
Ok.
Là, quand j'ai travaillé sur notre échange, j'ai pensé au Joker de Joaquin Phoenix.
Ça fait des semaines que je veux le voir, je l'ai toujours pas vu.
Tu l'as pas vu?
Ouais.
Ah, mais là, je suis obligé de te spoiler en plus.
Vas-y, c'est pas grave.
En sachant qu'il y a le 2 qui va sortir. Dans ce film-là, ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit une personne qui est seule et qui désire être acceptée. Et elle est vraiment méprisée par tout le monde. Au point même que parfois, même une porte ne décide de pas s'ouvrir alors qu'elle s'ouvre pour tout le monde. Ça engendre beaucoup de fantasmes chez lui pour être justement accepté. Par exemple, t'as Robert De Niro qui joue le rôle d'un présentateur très connu et lui, il rêve d'être accepté par lui, tu vois. Même limite en tant que père. Et il y a aussi sa voisine après qui il est super amoureux et qu'il aimerait bien gérer. Et plus il lutte contre sa folie, plus il est sombre jusqu'au moment où il devient le Joker. Et à la fin, il finit dans un asile. Et ce qui est intéressant, c'est que on se demande vraiment si tout ce qu'on a vu pendant tout le film, ça s'est vraiment passé, ou si c'était dans sa tête, c'était une forme de fantasme. Et la question que j'ai envie de te poser par rapport à ça, c'est est-ce que tu t'es déjà senti dans cette position-là, à un moment donné dans ta vie? Est-ce que tu t'en es sorti? Et si oui, comment t'as fait pour briser ça?
Briser quoi? C'est quoi ça?
Cette histoire de fantasme, de folie de part de sombre que t'as en toi et que t'acceptes pas forcément.
Bah, la liberté passe par là. Hein. C'est comme The Pit dans Batman, tu vois, quand il est tout au fond, dans le 3, quand il est vraiment tout au fond. Et de ce que tu m'as dit, j'entends absolument pas de la folie. Ce qui rend fou, c'est cet appel à l'amour et c'est que les gens n'ont pas les codes. Ils disent, ouais, l'amour blesse. Non, c'est pas l'amour qui blesse. C'est ce que tu es prêt à faire pour te sentir aimé. Ou plutôt, ce que ton ego est prêt à faire pour se sentir aimé. Ça, mémorisez-le, c'est une pépite.
Tu dis beaucoup tu.
C'est vrai. Ce que je suis prêt à faire pour me sentir aimé. Très juste. Et ce que j'étais prêt à faire pour me sentir aimé m'a fait souffrir. Et dans ce que tu me dis de ce film, ce qui rend fou, c'est ce que peut-être le personnage de Joaquin Phoenix était prêt à faire pour se sentir aimé. C'est ça qui rend fou, parce que c'est un... Tu sais, c'est le fameux complexe de je ne sais plus... Tu sais, bref, dans le monde gréco-romain, tu sais, t'as de l'eau devant toi et plus tu te rapproches, plus l'eau s'éloigne.
Ah oui, je vois.
Tu vois. Et c'est ça que ça va créer. C'est plus je suis en mode aimez-moi et plus les gens vont dire mais il est chelou, lui, ouais. Tu vois. Il est dégoulinant, il fait flipper. Et plus je vois dans le regard des autres, plus je vois dans leur regard à quel point ils me renvoient la folie de mon ego qui se pense séparé de la source, de l'amour, et donc qui veut aller chercher chez les autres. Et par amour, la source me renvoie que pourquoi pas t'aimer comme ça. Et un ego qui comprend ça va souffrir. Et là, ça peut mener effectivement à de la folie, à des comportements complètement asociaux qui peuvent te diriger vers l'asile ou la rue ou dans des systèmes extrêmes, tu vois. Mais tout part toujours d'une souffrance et de la croyance. Après, je te dirais, bah, parle-moi de son père. Ouais. Parle-moi de sa mère. Quel était le rapport, tu vois. Et on peut aller loin. Avec Anissa, on fait de la constellation familiale. On travaille beaucoup sur le transgénérationnel. Pas comme des excuses, mais comme une cartographie, une explication de tous les troubles et répercussions émotionnelles et traumatiques qu'il y a chez les êtres humains. Et ce qu'on se tape de nos lignées, tu vois. C'est une discussion qu'on avait toi et moi juste avant, tu vois. On en récupère de nos lignées.
Ah hein. Oh, oui.
On en récupère, tu vois, inconsciemment. Hein. C'est pas forcément ce qu'on nous a répété, mais on récupère tellement de choses.
Ouais.
Des culpabilités, des loyautés, des sabotages, des colères envers nous-mêmes, des colères envers plein de choses. Enfin, c'est un sacré océan dans lequel on navigue, en fait. Et le cap, c'est l'amour. Mais pas l'amour amoureux. Je parle de l'amour en tant que nature véritable. J'aurais pu dire Dieu, mais ça va pas parler à tout le monde. Mais moi, je n'utilise pas ce mot. Je dis ce qui est. Et ce qui est, c'est l'amour.
Dernière question pour toi. Comme l'énigme, si tu devais faire le bilan.
On fait le bilan, calmement. Le bilan de quoi? L'interview, notre amitié, là où j'en suis dans ma vie?
Tu prends comme tu le veux, spontanément.
J'ai l'impression de fermer la première succursale. J'arrive à la fin vraiment du garage de Steve Jobs, tu vois. Ça y est, c'est bon, c'est plus un garage. Mais je rentre vraiment dans un espace de... où je me sens homme, je me sens mari, je me sens entrepreneur, je me sens dans ma juste place de transmission. J'ai galéré avec la légitimité à transmettre. Et là, c'est un chapitre, c'est ce que je m'étais promis, je vais terminer là-dessus. En vrai, ce que je m'étais promis, gamin, c'est la vingtaine, j'explore, je découvre. La trentaine, je bâtis une famille. Et la quarantaine, je navigue, tu vois, je me réconcilie vraiment avec l'argent, avec l'abondance financière, avec tout ça. Je sors du déni et de la colère parce que je kiffe l'abondance financière, parce que je kiffe aller dans les palaces, je kiffe vivre bien. Et je commence à transmettre vraiment, me mettre au service de mes clients, au service de tous ceux que je croise, sans chercher à les sauver. Voilà le bilan où j'en suis et on reparlera pour la cinquantaine.
Super, tout se passe comme prévu alors.
Dans les grandes lignes, mais après c'est la vie. Hein. Après, j'ai pas de pouvoir dessus.
Très bien, merci à toi.
Avec plaisir.
Ce que je retiens, comme d'hab, trois choses. Et cette fois, je vais la faire en parlant à la première personne. En un, j'ai beau fuir le monde et changer d'environnement, je ne peux pas m'échapper de moi-même. En deux, je suis OK avec mon passé, qui j'ai été et ce que j'ai accompli. Et en trois, je m'autorise à vivre pleinement avec grandeur la vie que je mérite de vivre. Et toi alors, c'est quoi tes leçons ?